Les Voix de service magazine, mercredi 6 juin 2018. Bonjour à tous, en cette belle journée un petit peu frisconnette, oui. Mais néanmoins annonciatrice d'un bel été ensoleillé.
Mm-hmm. On l'espère. Va espérer.
Mon nom est Isabelle Falardeau et je suis en compagnie cette semaine de Daniel Lachance, revenu d'entre les vacanciers.
Oui.
Bonjour Serge.
Revenu des Maritimes.
Ah, excellent. Est-ce qu'il fait beau? On
oui.
jase, là.
Oui, ouais. c'est à peu près... Moi, j'aime pas les grosses chaleurs, là,
pour visiter. Très bien.
Alors, j'avais une température comme aujourd'hui. Mais sans pluie, sauf une journée.
Bon, alors, parfait. Bon, ouais. Et de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Serge?
Ah, ben comme je reviens des Maritimes, des sujets des Maritimes.
Ah, vous nous avez rapporté des sujets de là-bas.
Oui. L'île du Prince-Édouard est reconnue pour un légume pour...
Mon aliment préféré au monde.
Ah, oui?
Oui. Oui, sur une île déserte, moi, j'apporte des patates. Oui,
okay. La patate.
Ouais. Une patate, puis après, on la fait pousser d'autres.
Oui. Mm-hmm. Il y a, figurez-vous, un musée de la patate.
Ah oui, ah,
à l'île du Prince-Édouard.
Ouais, ben ça vaut le déplacement.
J'étais un peu sceptique.
Peut-être pas y aller juste pour ça.
Non, mais c'était vraiment un très beau musée. Ouais, pas gros, là, mais oui, très, j'imagine. Très beau musée.
Est-ce
très,
qu'il y a un
musée.
Monsieur Patate qui est là?
Oui, il y a des photos. Je vais vous montrer à l'entrée une énorme patate.
Et comme autre sujet?
Et autre sujet. Petite devinette, ce fut la plus puissante explosion causée par l'activité humaine jusqu'au premier essai atomique en juillet 1945, et ça a eu lieu au Canada.
Ah, ben là, vous allez nous... Oui. Nos neurones commencent à tourner.
J'étais
là.
Pas né, donc j'ai une bonne excuse.
C'est ça. La même excuse que j'ai toujours. Et de votre côté, Daniel?
Je vais vous parler de l'Orchestre symphonique de Montréal en première partie. Et en deuxième partie, je vais revenir avec... Je vous ai parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines. Je vous ai parlé de la guitare de Kurt Cobain.
Oui, vous allez nous donner des nouvelles de l'histoire.
Mais il y a une suite assez rocambolesque.
Il y a des rebondissements.
Cette histoire-là, je vais vous en parler en deuxième partie.
Et puis moi, je vais vous amener en Outaouais pour vous parler de la réserve de Kitigan Zibi. Voilà, deux articles qui, coïncidentalement, parlent du même endroit.
Bon.
Et je vais commencer tout de suite en vous parlant du chef de Kitigan, je savais que j'allais faire l'erreur, Kitigan Zibi, qui veut du financement pour protéger la langue. C'est un article que j'ai pris le 2 juin sur le site Ici Ottawa-Gatineau. Alors, le chef du conseil de bande de la nation Anishinaabe de Kitigan Zibi, Jean-Guy White Duck, accueille favorablement la volonté du gouvernement fédéral d'adopter une loi pour protéger les langues autochtones au pays, mais il revendique du même souffle un financement supplémentaire pour que les communautés assurent la protection de leur langue. C'est un texte d'Antoine Trépanier. La ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly, a annoncé vendredi des séances communautaires de mobilisation intensive partout au Canada cet été pour appuyer l'élaboration d'une loi sur les langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La ministre voudrait présenter un projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire. L'idée de protéger les langues est importante. S'il y a une loi, tant mieux. Mais c'est vraiment à nous, comme peuple, de s'assurer de sauver notre langue. On est là, c'est pas Mme Joly qui parle, vous l'avez deviné. Ouais. On est les joueurs principaux dans tout ça. Oui, s'il y a une loi, ça va nous aider. Et un peu de financement va aider sûrement. C'est la déclaration de M. White Duck, dont la communauté est située dans la région de la capitale nationale. Selon lui, la langue algonquine est en danger dans sa communauté, et ce même s'il y a encore beaucoup de gens qui la parlent. Il y a un travail à faire pour faire revivre la langue. En 2016, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'une loi sur les langues autochtones serait adoptée afin d'assurer la préservation, la protection et la revitalisation des langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au pays. Selon l'UNESCO, plus des deux tiers des 90 langues autochtones parlées au Canada sont menacées, alors que l'autre tiers est jugé vulnérable.
90 langues autochtones?
Oui, oui. Bon.
Quand même.
Donc, qui sont regroupées dans des grandes familles. Mm-hmm. J'imagine là, la famille algonquine, la famille algonquienne et iroquoienne, mais j'ai pas plus de détails que ça. Alors, je vous reviendrai là-dessus.
Ben oui.
Mais dans le cas de Kitigan Zibi, on parle de la langue algonquine. Alors, donc, c'est ça, il y en a. Donc, les deux tiers qui sont menacés, puis l'autre tiers vulnérable. Alors, il n'y a rien qui est sûr pour ces langues-là. Et Mme Joly nous dit « Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qui nous lie aux peuples autochtones. »
Ben oui.
Bon, vous avez peut-être décelé mon ton un peu. Voilà. Alors, le gouvernement affirme que le nombre de locuteurs est en constante baisse au pays. En 2011, près de 17 % des Autochtones pouvaient converser en langue autochtone, alors que ce nombre était de 21 % 5 ans plus tôt, en 2006. Donc, ça a baissé de 4 % là, le nombre d'Autochtones qui pouvaient parler dans leur langue, en fait, plutôt dans la langue de leurs ancêtres. Les langues sont un élément important de la culture et de l'identité. C'est pourquoi il est essentiel de soutenir la préservation, la promotion et la revitalisation des langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis, a déclaré la ministre Joly. Et en deuxième partie d'émission, je vous parlerai encore de Kitigan Zibi en vous apprenant cinq choses qu'on peut découvrir dans un powwow, puisque c'était leur powwow en fin de semaine dernière.
OK, un genre de rave.
Je ne sais pas s'il faut dire... En fait, j'aurais dû vérifier la prononciation.
La prononciation, mais... ou je pense.
On va dire powwow. Hein? Ouais.
Bon,
alors voilà. Et ben, c'est à vous, mon cher Daniel.
Oui, ben, je vais vous parler...
Ouais,
ben, je vais vous parler de l'Orchestre symphonique de Montréal, l'OSM, un article qui est paru dans la presse Plus, qui a pour titre « L'été... » très chargé de l'OSM. L'orchestre dans les parcs, les concerts en Autriche et en Pologne, puis la virée... Excusez, ma tablette, elle vient de...
Donc, on n'aura pas besoin d'aller en Pologne et en Autriche, non. On va pouvoir aller dans un parc pour déguster la musique de l'OSM.
La virée classique. La saison estivale de l'Orchestre symphonique de Montréal se décline en trois grands axes. Le maestro Kent Nagano, directeur artistique et chef principal de l'orchestre, commente chacun d'eux. Donc, en premier, l'OSM dans les parcs. Trois concerts de l'OSM dans les parcs sont prévus au cours de l'été. Les programmes seront animés par le comédien Emmanuel Bilodeau, que vous connaissez.
Oui. Oui.
Sous la direction du chef assistant Adam Johnson, des œuvres très connues du répertoire classique seront exécutées par l'orchestre, notamment l'ouverture de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, une suite tirée de Carmen de Bizet, ou encore l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini.
Oh, c'est beau ça.
Oui. Ces concerts auront lieu... D'ailleurs, Guillaume Tell, c'est une musique, on le dit comme ça, on fait peut-être pas référence, mais on a entendu ça beaucoup,
oui,
surtout
oui.
Dans les Looney Tunes et compagnie, des dessins animés.
C'est une musique qui vient souvent.
Dans les années 50, là, on avait la télévision, là, on avait ça.
Juste une petite parenthèse, mais je pense que les Looney Tunes et compagnie, c'est vraiment ce qui nous a initié à la musique classique quand on était jeunes. On s'intéressait pas à ça, on avait juste la musique pop, mais...
Ah oui. Il y a eu Fantasia aussi, c'était vraiment...
Oui, donc, je reviens à moi. Donc, ces concerts auront lieu le 4 juillet au Parc de la Sorbonne et le 10 juillet au Parc Jarry. L'autre parc investi par l'OSM se trouvera à la Fête de la musique à Tremblant, soit le 2 septembre, alors que Kent Nagano dirigera l'exécution de la suite symphonique Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Ces concerts dans les parcs n'incarnent pas une idée nouvelle à l'OSM, explique le maestro. Depuis les tout débuts avec le maître Wilfrid Pelletier, d'ailleurs, il y a une salle à son nom, la Place des Arts. Il y a cet effort estival de faire disparaître toute frontière entre l'orchestre et la communauté. Nous encourageons ainsi les gens à faire l'expérience de la musique classique et à l'intégrer à leur vie quotidienne. Nous souhaitons, une fois de plus, toucher un maximum de personnes, soit de 8 000 à 15 000 personnes par événement. C'est quand même beaucoup, ça. Mm-hmm. C'est quasiment autant que des concerts rock, finalement. Pour la 7e année consécutive, la virée classique de l'OSM prend la forme d'un véritable festival de musique classique à Montréal. Du 29 août au 2 septembre, on y présentera une trentaine de concerts et d'activités déclinées autour de la musique classique. Plus de 500 artistes et de plus de 10 nationalités seront mis à contribution. Le coup d'envoi sera donné au Parc olympique avec l'exécution par l'OSM et Kent Nagano de la suite symphonique Scheherazade de Rimsky-Korsakov, magnifié par l'intervention du Cirque Éloise. Le maestro et son orchestre comptent offrir au public pas moins de 11 concerts en 5 jours de virée classique. Le pianiste anglais Paul Lewis et le pianiste russe Alexei Volodine s'y produiront chacun dans 3 concerts différents, musique symphonique, musique de chambre et récital. Constitué de membres de l'OSM et de lauréats du concours tenu par l'orchestre, l'ensemble de la virée exécutera la valse de l'Empereur de Johann Strauss II. On prévoit aussi au programme un programme infiniment Bach, un autre consacré au grand cœur de Wagner et Verdi, sans compter le retour du guitariste électrique Steve Hill pour l'interprétation de The Electric Candlelight Concerto de John Anthony Lennon. John Anthony Lennon, de son vrai nom, John Lennon. Bon.
C'est le même, donc.
Oui, c'est le même. C'est le même. Parmi les activités gratuites, il y aura du cinéma, théâtre Maisonneuve, un concert arrimé à l'émission Virtuose de Grégory Charles, ainsi que la symphonie de la Virée, construite avec des instrumentistes amateurs issus de partout au Québec et sélectionnés par l'OSM. Cette année, nous réalisons un rêve, s'exclame le directeur artistique de l'OSM. 11 concerts donnés par l'orchestre pendant cette virée classique, cela semble assez extravagant. Or, ces concerts sont brefs, nous y offrons des menus destinés à stimuler les papilles gustatives. Nous voulons y représenter le Québec d'aujourd'hui et aussi le répertoire international des grands maîtres qui nous ont menés au grand changement de la musique au 21e siècle. Ainsi, nous présenterons la musique dans plusieurs configurations, musique symphonique, musique de chambre, solo et lieu. Avec la soprano Sarah Wegner, la baryton Lucas McKim, la basse Matthew Rose, le chœur de garçon de Varsovie sous la direction de Christophe Kuziel-Moroz, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais il y a beaucoup de Z et ouais. Y dans son nom. Il serait payant au scrapolé. Et le chœur philharmonique de Cracovie, dirigé par Teresa Majka-Pachanek. L'OSM et Kent Nagano interpréteront la passion selon Saint-Luc du compositeur polonais Krzysztof Penderecki, dont ce sera le 85e anniversaire de naissance en novembre. L'Orchestre montréalais a été sélectionné pour le concert d'ouverture du célèbre Festival de Salzbourg en Autriche ainsi qu'à Cracovie en Pologne. Les mélomanes québécois ne seront pas en reste. Juste avant leur départ pour cette mini-tournée européenne, l'OSM et Nagano exécuteront cette même passion selon Saint-Luc le 14 juillet prochain au Festival de la Naudière. Être invité au Festival de Salzbourg cet été, insiste le directeur artistique, c'est un grand honneur, surtout lorsqu'on provient d'Amérique du Nord. Très peu d'ensembles américains ou canadiens ont été invités à jouer à Salzbourg et encore moins pour ouvrir ce festival. Vous savez, c'est un postulat de Salzbourg que de choisir cette œuvre de Penderecki, un des rares compositeurs à avoir vu de son vivant certaines de ses œuvres devenir de grands classiques. Par cette occasion, nous donnerons le signal de notre retour dans les grandes capitales européennes avant notre tournée de 2019. Par ailleurs, nous avons été profondément émus que la Naudière accepte de présenter l'œuvre. Nous pourrons compter sur des chœurs d'ici, le Québec ayant une grande tradition chorale. J'aurais tellement aimé trouver l'argent pour amener tous les chanteurs à l'étranger.
Sans doute reconnu Bizet, avec Habanera, tiré de Carmen. C'était l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé à l'époque par Charles Dutoit.
Ah ah!
Non, on ne veut pas l'entendre, ça. Il est rendu persona non grata, monsieur. Ouais. Mais non, je ne devrais pas dire ça. Et on va changer de sujet. Vous allez nous parler de quelque chose de délicieux.
La patate.
Serge.
Non, pas moi de terre. Et regardez, c'est pas des blagues. Hein. Je suis allé au musée de la patate. Là. Regardez.
Ah, vous allez. Oh, oui, les belles photos.
Oui, l'immense patate.
Potatum. Oh, oui, c'est une grosse patate.
Grosse patate.
On peut nourrir plusieurs personnes avec
oui,
ça.
Pas mal, oui. Pas mal.
Oui, oui, oui. Ah, oui, c'est vraiment. C'est oui.
Il y a toute une gamme de souvenirs.
Est-ce qu'il y a un musée de la poutine juste à côté?
Non.
Ce serait une bonne
alors,
suite.
On peut acheter des objets promotionnels en forme de patate.
Oui, il y a des savons en forme de patate.
Ah, ben oui.
Et qui ont vraiment la couleur de la pomme de terre.
Je ne sais pas si j'aurais envie de me laver, par contre, avec un...
Des tartes aux patates.
La texture, la même.
Ah, des tartes, oui, ouais. La fameuse tarte aux patates.
Mais j'aurais aimé ça y goûter, mais ils n'en faisaient pas à ce moment-là. Okay. Bon, fait que, en fait, il y en a comme ça une
c'était pas la liste. Saison.
Non.
Pas la saison de la pomme.
Donc, l'histoire de la pomme de terre. L'histoire de la pomme de terre, qu'on appelle aussi Solanum tuberosum.
Ah oui?
C'est un petit tubercule.
C'est son petit nom intime.
Commence avec celle des Amérindiens qui vivaient il y a plus de 10 000 ans dans la zone côtière de l'actuel Pérou et au sud-ouest de l'Amérique latine. Ces chasseurs-cueilleurs du Néolithique ont doucement appris à la domestiquer et à traiter ses propriétés toxiques, parce qu'elle était toxique au début. Ouais. Mm. Il y a 8000 ans, sur l'altiplano andin, dans la région du lac Titicaca, cette domestication a abouti à des pratiques rationnelles de culture et de conservation. Au 16e siècle, à l'arrivée des conquistadors lors de la conquête espagnole des Amériques, la pomme de terre, avec le maïs, est à la base de l'alimentation de l'ensemble de l'Empire Inca et des populations vivant dans les régions voisines.
Eh bien, le maïs, qui est mon autre aliment préféré.
Oui. Bon. Ça il manque être... juste le bœuf haché.
Oui, pour les ancêtres. Oui, c'est bien dans une patate.
Après leur découverte par les conquistadors, les tubercules sont embarqués à bord des galions, comme vives de soute, et les explorateurs du Nouveau Monde les débarquent dans les ports d'Espagne et d'ailleurs. De là,
on
la pomme de terre.
L'or blanc.
Oui, ben oui,
c'est
oui,
comme
oui,
ça
oui.
qui a envahi l'Europe.
Oui, oui, oui.
Patate.
De là, la pomme de terre part à la conquête de l'Europe et du monde. Objet de curiosité des botanistes et des rois, remède à certaines maladies pour les ecclésiastiques.
Ah oui, bien tout était un remède à certaines maladies.
Ouais, ouais. Elle n'est pas tout de suite considérée comme pouvant servir à l'alimentation des humains. Dans le sud de l'Europe, elle circule de couvent en couvent. D'Espagne en Italie. En Italie, on l'appelle la taratufi ou tartufoli dans les Alpes italiennes. Elle est appelée, en Savoie, elle est appelée cartoufle. Puis elle se dirige ensuite vers l'Autriche, l'Angleterre.
Ah, cartoufle, le mot allemand, donc ça vient de cette racine-là, j'imagine.
Pour la pomme de terre, cartoufle.
Cartoufle salade, c'est la salade de pommes de terre.
Ah, voilà. La fameuse salade.
Bon, ma prononciation doit laisser un peu à désirer, mais...
On avait compris.
Et ensuite, elle s'en va vers l'Autriche, l'Angleterre, l'Irlande et les Flandres. Mais il faudra attendre le début du 17e siècle pour qu'elle commence à être sporadiquement cultivée. Les poteries ayant pour thème la pomme de terre, découverte dans la région de l'ancien Empire Inca.
Daniel aussi a un air un peu perplexe. Des poteries ayant pour thème la pomme de terre.
Oui, ben oui, c'est parce que ça témoigne de l'importance qu'a pu revêtir sa domestication pour les cultures qui s'y sont succédées. Alors, c'est ça, est important. Donc, on la retrouvait sur les poteries.
Okay. Mais moi, je les comprends tout à fait, ceci. Mm-hmm.
Alors, ces poteries qui s'échelonnent du 2e au 16e siècle, de l'ère Nazca à la fin de l'ère Inca, figurent les tubercules de manière très réaliste, puis celles-ci évoluent jusqu'à prendre la forme de créatures humaines ou animales. Sur lesquelles sont toujours représentés les yeux des pommes de terre de façon de plus en plus stylisée.
C'est vrai qu'on a tous déjà rencontré une pomme de terre qui avait un air un peu humain, avec des yeux juste aux bons endroits. Puis...
Alors, regardons maintenant l'introduction et la diffusion en Europe. On ne dispose sur les conditions et la chronologie des événements marquant son arrivée en Europe qu'un d'informations fragmentaires issues des récits des explorateurs ayant parcouru le Nouveau Monde à partir du 16e siècle, donc les années 1500. En deux siècles, la pomme de terre va conquérir le vieux continent, propagée d'abord depuis l'Espagne, puis l'Angleterre, au gré des famines ou des guerres, comme celle de 30 ans et de 7 ans, et avec le concours d'ecclésiastiques de haut rang.
Toujours.
Oui, jusqu'au milieu du 16e siècle, la pomme de terre, considérée plus comme une médecine que comme un aliment, va rester cantonnée autour des couvents, des cours royales, des jardins de botanistes, et il faudra que l'Europe subisse les nombreuses disettes et les guerres qui vont l'accabler.
Oui, parce que ça pousse bien, la patate.
Oui, bah oui, oui. Puis ça nourrit, c'est très nourrissant.
Oui, c'est très nourrissant.
Un des légumes les plus nourrissants. Oui, tu peux survivre à la patate.
Voilà.
L'Irlande a survécu à la patate.
D'où mon idée de la porter sur l'île déserte. À part du fait que c'est délicieux.
Ouais. Donc, les disettes et les guerres qui vont l'accabler pendant les 17e siècle et 18e siècle, pour que sa culture et sa consommation, remède aux famines, se développent malgré les préjugés et les superstitions qui lui sont attachées.
Ah oui?
Oui. Au Cinquecento, par exemple, la pomme de terre va être classée avec les truffes ou la mandragore au plus bas de l'échelle des êtres vivants dans la Scala Naturae, parmi les plantes souterraines considérées comme impures.
Ah, parce que ça pousse dans la terre et non pas dans...
C'est pas très propre quand vous le sortez de terre.
Ben oui, ben,
et impropre à la consommation humaine. Se développe sous la terre dans les plantes souterraines sont se développant sous la terre, les plantes souterraines sont synonymes de mortification alimentaire et de pénitence. Dans la culture populaire, elle gardera ce rang dans l'échelle de la nature jusqu'au milieu du 17e siècle, comme le fait en 1675 Johannes Franciscus van Stirbeck dans son Theatrum Fungorum. Je vous invite à le lire.
Theatrum Fungorum, oui. c'est un livre sur la patate?
Oui. Alors, tout concorde pour affirmer que la pomme de terre a d'abord été introduite en Espagne par les conquistadors et très peu de temps après dans les îles britanniques par Sir Francis Drake, célèbre pirate de la reine Élisabeth Ière.
Corsaire plutôt que pirate.
Oui, corsaire, Les caracs...
Oui, parce que moi, je jouais à Assassin's Creed, alors je connais
Je pensais où elle avait pris ça.
Les caracs, puis les galions qui ramènent en Espagne les denrées en provenance des colonies espagnoles des Amériques, dont les pommes de terre et leurs premières semences, embarquent leur cargaison depuis le port de Carthagène des Indes pour effectuer la traversée de retour vers l'Espagne et les ports de Cadix et Séville, d'où ils sont partis au printemps de l'année précédente pour un voyage transatlantique d'environ un mois, porté par les Élysées. Les navires de la Carrera de Indias devaient quitter les parages des Caraïbes avant la fin du mois de juin et la période des cyclones. À l'époque, hein, tu ne pouvais pas toujours dire un bateau part.
On ne savait pas de quand...
Non, là, ça dépendait des vents. Des fois, tu attendais des mois pour partir que les vents...
Soit dans la bonne direction assez puissant.
Après une dizaine de semaines de traversée océanique, ils atteignaient les îles Canaries, où ils faisaient escale, puis gagnaient les côtes espagnoles sous l'escorte de l'armada de la mer Océane en une dizaine de jours. Un personnage important, Antoine Parmentier.
L'inventeur du potage ou celui pour qui on l'a inventé?
Ah, je vais vous dire ça. Mais c'est surtout Antoine Parmentier qui va devenir en France le porte-drapeau de la culture de la pomme de terre, comme moyen de parer aux famines répétitives qui sévissent dans le pays et qui va œuvrer à la rendre populaire auprès d'une population parfois réticente face à ce tubercule mal considéré.
Donc, lui, il faisait la promotion de la patate.
Et on lui a prêté notamment la faculté de transmettre la lèpre. Pas lui, mais la pomme de terre. Mais tu sais, quand on regarde une pomme de terre, effectivement...
Il y en a qui sont effectivement des patates qui ont un peu un air...
Puis on associait, c'est pour ça qu'on associait les légumes à des maladies. En 1748, un arrêt du Parlement de Paris en interdit même la culture dans le nord de la France. Capturé par les Prussiens pendant la guerre de Sept Ans et libéré en 1766, c'est au cours de sa captivité en Westphalie qu'il avait découvert les vertus nutritives de la pomme de terre, principale nourriture donnée alors aux prisonniers par leur geôlier. C'était pas coûteux et ça nourrissait.
Les chanceux.
En 1773, dans « Examen chimique des pommes de terre », il écrit « Nos soldats ont considérablement mangé de pommes de terre dans la dernière guerre. Ils en ont même fait excès sans avoir été incommodés. Elles ont été ma seule ressource pendant plus de 15 jours et je n'en suis ni fatigué ni disposé. » Maintenant, en terminant, pour la rendre populaire, on a usé d'un stratagème. Le 31 mai 1785, alors que la sécheresse ravage bon nombre de régions françaises, le roi Louis XVI ordonne de publier une instruction sur les moyens de suppléer à la disette des fourrages et d'augmenter la subsistance des bestiaux. Il y a mentionné que les pommes de terre et les diverses espèces de choux et de navets forment une excellente nourriture pour le bétail et surtout pour les vaches auxquelles elles procurent un lait abondant et de bonne qualité. Selon la légende, Parmentier réussit alors sans difficulté à obtenir l'appui du roi et de plusieurs de ses conseillers pour inciter la population à consommer des pommes de terre en employant en 1786 un stratagème resté célèbre. De jour, il fait monter une garde autour des cultures de pommes de terre qu'il a mis en place près de Paris sur des terres mises à la disposition de l'Académie d'agriculture.
Pour rendre ça précieux.
Par le roi, par le roi, dont les plaines, dans les plaines de Sablon et de Grenelle. Donnant ainsi l'impression aux riverains qu'il s'agit d'une culture rare et chère, destinée au seul usage des nobles. La garde est levée la nuit. La garde est levée la nuit, je dis ce qui se passe. Hein.
Ouais. Et là, les gens viennent s'emparer des patates.
Ce qui incite la population à voler des tubercules, contribuant ainsi à leur diffusion dans le bassin parisien. Le roi Louis XVI, qui n'hésita pas à emporter des fleurs à la boutonnière, le félicitera en ces termes. « La France vous remerciera un jour d'avoir inventé le pain des pauvres. » C'est bien dit, hein? La publicité que lui apporte Parmentier, aidée par le soutien du roi, permet à la pomme de terre de se débarrasser de son image d'aliment des pauvres. Elle est désormais appréciée par les élites, ce qui lui vaut d'être surnommée « légume de la cabane et du château ».
Ah ben. Ah ben oui, la cabane.
La cabane et le château. Voilà, la bicoque et le château. Et voilà.
Ah, ben merci beaucoup.
Stupid and contagious.
l'instant, on vient d'entendre la formation italienne Jazz Osmosis Trio qui reprenait ce méga succès de Nirvana, la pièce Smell Like Teen Spirit. Et juste avant la pause, on s'est laissé avec le Jazz Band et leur chanson, dont vous aurez peut-être deviné le titre, Les Patates.
Non, j'aurais jamais.
Merci beaucoup pour ce choix musical très judicieux. Et on commence tout de suite avec vous,
bien sûr,
puisqu'on parlait de Nirvana.
Oui, je vais juste faire un petit retour en arrière. Je ne me souviens pas si c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, je pense. J'avais lu un article sur la fille de Kurt Cobain, justement, Frances Bean Cobain, qui a perdu la guitare de son père dans son divorce.
Oui, ben oui, je me rappelle.
De ça, oui. Ah, là, c'est ça, vous étiez absent, Serge, alors, voilà.
Oui.
Dans son divorce.
Ouais, ben, pas une histoire courte.
Ouais, on va pas résumer tout au complet. En fait, on peut résumer très rapidement.
Ouais, c'est que dans son divorce, son mari a invoqué le fait que Kurt Cobain lui avait donné la guitare à lui en cadeau de mariage. Ah. Mais elle revendique le fait que c'est son père.
Son héritage, c'est son bon.
Ouais, voilà. C'est assez compliqué.
Et c'est lui qui a gagné.
Je vais peut-être mettre un bémol à ça. Je pense que dans l'article, c'était la femme... Donc, la fille de Kurt Cobain qui aurait donné la guitare à son mari.
Oui, c'est vrai, c'est elle qui lui avait donné. Oui.
Parce qu'elle était en très bas âge, elle n'était même pas d'âge scolaire, il me semble, la fille de Kurt Cobain, quand il est décédé.
Effectivement.
Donc, oui, non, c'est ça, effectivement. Mais c'est quand même son mari, son ex, qui a gagné la guitare.
Absolument. Il a réussi, je ne sais pas de quelle façon, à prouver que la guitare lui avait été donnée.
Exactement.
Donc, elle n'en a pas plus. Sauf que là, la suite, j'ai trouvé ça hier, je trouvais que ça valait la peine de continuer là-dedans, dans le Figaro. Qui a été publié le 31 mai, donc ça fait quelques jours seulement. Oui. Courtney Love, qui était l'ex de Kurt Cobain, accusé d'avoir tenté d'assassiner son ex-gendre pour une guitare de Kurt Cobain.
Donc, est-ce qu'on parle du même gendre et de la même
la
guitare?
La même guitare, oui, effectivement.
Tenté d'assassiner.
La rockeuse est...
Ça va plus loin, là, ouais, c'est ça.
Oui, je trouve que ça prend des proportions. La rockeuse est accusée de tentative de meurtre, de kidnapping et d'agression par Isaiah Silva, l'ex-mari de sa fille. Elle aurait orchestré son enlèvement afin de récupérer la guitare du chanteur de Nirvana, confiée par la justice à son ancien beau-fils.
Donc, y avait-tu caché des diamants dans cette guitare-là ou quelque chose?
Je sais pas. Et en tout cas, on va dire plus loin pourquoi elle a tant de valeur. Là, mais... 2 ans de mariage et presque autant d'un divorce tumultueux. La fille de Courtney Love et Kurt Cobain, Frances Bean, n'en finit plus de faire la une de la presse People américaine avec les frasques qu'il oppose à son ex-époux, Isaiah Silva. Le site TMZ a révélé le 29 mai que ce dernier a porté plainte contre son ancienne belle-mère, l'interprète de Dolly Parton, pour tentative de meurtre, kidnapping et agression. Les faits remonteraient à juin 2016, quand le jeune couple était en cours de séparation après seulement 2 ans de mariage. Isaiah Silva a gardé avec lui la guitare 1959 Martin de Kurt Cobain, malgré les réticences de Frances Bean. Courtney Love aurait ensuite orchestré le kidnapping de son ex-gendre afin de récupérer l'objet estimé à des dizaines de millions de dollars.
Bon, quand même.
Millions?
Oui, c'est de l'argent.
Yes.
C'est vrai, j'avais oublié à quel point elle valait cher.
Mais je ne sais pas comment on peut arriver à cette évaluation-là. Ben ouais. Là, ça dépend toujours qui est prêt, un collectionneur qui est prêt à mettre le prix. Là, donc. Dans sa déposition, Isaiah donne des noms de prétendus complices, dont Sam Lutfi, ancien manager de Britney Spears, ou l'acteur Ross Butler, connu pour son rôle dans la série Netflix 30 Reasons Why. Ils auraient réussi à entrer chez lui en se faisant passer...
Excusez-moi, je pense que c'est 13 Reasons 13, Why.
J'ai dit 30, oui, hein, c'est 13.
C'est
ouais,
c'est un moins, il y avait juste
13
raisons.
Effectivement. Enlevez-en 17. Ils auraient réussi à entrer chez lui en se faisant passer pour la police. Ça lève vraiment d'une film.
C'est une comédie.
Selon la victime, l'objectif était de le rouer de coups, le kidnapper et de tenter de l'assassiner dans sa maison de Hollywood. Il affirme également que Sam Lutfi procurait à Frances Cobain et Courtney Love des narcotiques. Bon, ça. Une enquête a été ouverte par la police de Los Angeles. Isaiah Silva révèle cette affaire moins d'un mois après que la justice a décidé de lui confier définitivement la guitare de Kurt Cobain. Il affirme que la fille de la star de Nirvana lui a offert un cadeau, comme précisait Jean-Sébastien tantôt, avant leur séparation, et qu'elle lui revient de droit. Frances Bean en finit par accepter afin de finaliser le divorce. Courtney Love n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle. Elle a toutefois retweeté hier un post de l'acteur Ian Nelson qui parle de la nécessité de lire avec précaution tout ce bruit dans la presse. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde en ce moment. Je pense que, politiquement parlant, notre plus grand pouvoir est de nous informer sur ce qu'il se passe. Il y a tellement de bruit dans la presse. Je trouve que c'est un petit peu ésotérique son histoire, là, mais bon. On doit tout nettoyer pour vraiment comprendre par nous-mêmes. Donc, je ne comprends pas vraiment sa déclaration, mais bref, toute une histoire pour une guitare qui supposément vaut des dizaines de millions, mais peut-être dans 10 ans, elle vaudra rien. On n'en a aucune espèce d'idée.
Alors, tel que promis, je partage avec vous 5 choses à découvrir dans un powwow. C'est toujours sur le site ici, Ottawa-Gatineau, que j'ai tiré cet article. Et, bon, ils sont en train de... Excusez-moi, moi aussi, j'ai des problèmes avec ma tablette.
Bon, la technologie.
J'ai pris la peine de télécharger l'article hors ligne, mais j'ai dû appuyer sur quelque chose, puis ça l'a rechargé. Alors donc, c'est ça. Pendant la saison estivale, les Autochtones du Canada se rassemblent partout au pays dans des événements culturels et sacrés, communément appelés powwow. Et celui de la communauté de Kitigan-Zibi avait lieu cette fin de semaine, les 2 et 3 juin. Et l'équipe des Malins, qui est l'émission du samedi matin de la région d'Ottawa-Gatineau, devait se rendre. L'article a été écrit avant, là. A été écrit le 2 juin, mais en tout cas, de la façon dont ils en parlent dans l'article, vous allez voir. Je vous laisse décider vous-même. Mais bref, il y a toute une émission qui est consacrée au powwow de Kitigan-Zibi. Alors, vous pouvez aller sur le site là, de l'émission Les Malins, sur ICI Gatineau, ICI Radio-Canada, voilà. Et écoutez toute l'émission si ça vous intéresse là, d'en savoir plus. Alors donc, c'est à l'occasion de ce powwow. Comme l'émission se rendait sur place, je vais y arriver. Joël Fitzgerald a écrit un article, en a profité pour nous donner 5 pistes de découverte dans un powwow. Alors, premièrement, il y a 2 types de powwow. La traditionnelle, donc le type traditionnel, et le type compétitif. Le premier met l'accent sur les traditions et la spiritualité, alors que le powwow compétitif rassemble la communauté dans un concours, mettant sous les projecteurs des danseurs et des musiciens qui courent la chance de recevoir des prix. Sur le site, souvent garni d'une gigantesque tente qui sert d'arène, les compétiteurs se préparent dans des espaces réservés. Vêtements traditionnels, maquillage et répétitions sont au rendez-vous. Un animateur présente à tour de rôle les numéros qui seront présentés devant le public. Selon l'Encyclopédie canadienne, divers styles de danse sont présentés selon l'âge et le sexe des participants. Par exemple, la danse de la fumée, smoke dance, est traditionnellement exécutée par les hommes, tandis que les femmes présentent la danse des clochettes. Aussi, chaque communauté propose des danses et des éléments qui lui sont propres. Oui, j'ai pas de détails sur ce que c'est la danse des clochettes. Vous avez pensé à la fée clochette tout de suite, mais non, je pense pas que c'est ça.
Valère des clochettes dans l'opéra, l'acmé, oui.
Deuxièmement, les régalias. Alors, les powwows sont aujourd'hui des festivals ouverts au public, qu'ils soient autochtones ou non. En tant qu'invité à ces cérémonies, vous ferez face aux signes et régalias propres à la culture autochtone, les grosses plumes, les vêtements brodés, les mocassins, etc. Pour eux, ces éléments font partie intégrante de leur identité et revêtent un caractère sacré. Ces rassemblements sont des moments importants pour les Autochtones puisqu'ils leur permettent de communiquer ce qu'ils sont et de perpétuer leurs traditions transmises de génération en génération depuis des millénaires. C'est grâce aux vêtements traditionnels et aux choix d'accessoires qu'il est possible pour eux de manifester leur identité et pour nous d'identifier chaque nation. Alors, chaque nation a des couleurs qui lui est propre et un peu comme nos chevaliers avaient chacun leur... Les nobles avaient chacun leur écusson, là, puis c'est comme ça qu'on reconnaissait qui était de notre côté puis qui était contre nous là, dans l'armée. À les armoiries, voilà. Alors, on peut reconnaître les nations comme ça. Troisièmement, le protocole de conduite. Lors d'un powwow, le public est exposé à des danses, des chants et des habits traditionnels. L'envie de sortir son appareil photo ou son téléphone intelligent pour capturer quelques clichés peut être tentante. Avant de prendre en photo un kiosque, une prestation de danse ou un groupe de musiciens, il est important d'avoir l'autorisation de la personne par signe de respect. Il faut aussi être attentif puisqu'à certains moments, l'animateur de l'arène demandera au public de ne pas sortir son appareil photo afin de vivre pleinement ce qui se passe dans l'arène et ne pas déconcentrer les participants. Mmh. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent dans toutes sortes d'occasions parce que on voit souvent là, une foule de gens qui sont en train de regarder l'événement à travers leur téléphone ouais, plutôt que de regarder vraiment avec leurs yeux. Alors,
on va vivre
il me semble qu'on passe à côté de la réalité. Oui, c'est ça. Donc, pour les Autochtones, ces rassemblements ne sont pas des spectacles, mais une façon de perpétuer leurs traditions et de célébrer leurs origines. Quatrièmement, s'informer sur la culture. Selon l'organisateur du Powwow de Montréal, Alan Harrington, en entrevue à Espace Autochtone, la présence du public non autochtone dans les événements organisés par les Premières Nations est un pas de plus vers la réconciliation. Universités, organismes communautaires et clubs, plusieurs kiosques sont mis à la disposition des visiteurs qui veulent s'informer davantage sur la culture autochtone. Finalement, et ça c'est peut-être ce qui va nous tenter ou nous motiver le plus à se rendre sur place, c'est une foire artisanale. On plonge aussi le visiteur dans une grande foire où des artisans présentent des produits confectionnés à la main, tels que des mélanges de sauge, des vêtements traditionnels, des accessoires, etc. Si vous voulez renouveler votre capteur de rêve, petite parenthèse, ça fonctionne pour vrai. Hein?
Bon.
Moi, mon fils faisait des cauchemars et on s'est procuré un capteur de rêve. Et il a arrêté de faire des cauchemars. À un moment donné, son capteur de rêve est tombé. Et là, il a fait des cauchemars et il a compris que c'était à cause de ça. Il l'a raccroché à côté de son lit. Je ne sais pas si on l'avait installé selon les règles, mais voilà. Non, mais ça fonctionne en fait.
Bon, okay.
En tout cas, ça fonctionne sur les petits. Je ne sais pas si ça fonctionne pour les gros cauchemars des grandes personnes.
Ça fonctionne-tu contre l'insomnie? Ou...
Oui, c'est ça. Le powwow, c'est aussi l'occasion de déguster des mets traditionnels sur place. Hein, parce que aller dans une fête sans manger, il manque quelque chose.
Ouais,
c'est probablement pas la patate qui est à l'honneur cette fois-ci, mais vous pourrez savourer des spécialités de chaque nation, comme du poisson fumé et des burgers à la viande sauvage. Et c'est ce qui met fin à cet article. Donc, c'est ça, le powwow de Kitigan Zibi était cette fin de semaine, donc vous l'avez manqué, mais il y aura d'autres événements, d'autres occasions d'en visiter cet été, et je vais essayer là, de vous en faire part pour vous donner le goût d'aller vous informer davantage sur la culture autochtone. Et on va encore changer complètement de sujet avec vous, Serge. Là, vous allez être un peu plus dramatique ce matin avec nous.
Et j'ai visité les Maritimes, mais mes deux sujets sont inspirés des Maritimes.
Mais oui, vous êtes hardcore, comme on dit.
Oui, donc cette explosion, l'explosion-là a lieu dans les Maritimes.
Okay.
Ça vous donne ça. Ah, vous donne
celle hein, dont vous nous parliez au début, la plus grave explosion avant la bombe.
C'est pas qu'on ne l'a pas entendu, c'est quand même assez loin.
C'est en 1917. Et ça a lieu à Halifax.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Alors voilà.
Dans la Première Guerre mondiale.
L'explosion de Halifax se produisit le 6 décembre 1917 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, lorsque le cargo français Mont-Blanc, transportant des munitions à destination de l'Europe alors en guerre, entra en collision avec un navire norvégien, Limo. Le Mont-Blanc prit feu et explosa 20 minutes plus tard, tuant 2000 personnes. Et en blessant des milliers d'autres.
Voyons donc, 2000 personnes.
Et en laissant des milliers de personnes sans abri.
Oui, puis en plein hiver, à Halifax.
Oui. L'explosion engendra un tsunami et une onde de choc si puissante qu'elle cassa des arbres, plia des rails de chemin de fer et démolit des édifices, projetant des débris à des centaines de mètres.
Mais qu'est-ce qu'il y avait sur le bateau pour que ça explose?
C'était plein de munitions pour l'armée française.
Je ne savais pas.
Oui, plein de munitions.
Il a l'air.
L'explosion fut entendue à 420 km de distance.
400?
Ah oui, ça a été...
On ne l'a pas entendu ici, mais c'est juste. Hein?
Donc, on parle de la plus puissante explosion causée par l'activité humaine jusqu'au premier essai atomique en 1945.
Quand même, là, c'est pas rien.
Hors explosion atomique d'Hiroshima et Nagasaki, elle est toujours aujourd'hui celle ayant fait le plus de dégâts et celle d'origine accidentelle ayant fait le plus de victimes. Le record de l'explosion accidentelle la plus forte, estimé à 10 kilotonnes d'équivalent de TNT, est détenu par l'explosion, le 3 juillet 1969, de la seconde version du lanceur lunaire N1 soviétique qui retomba sur son pas de tir et le détruisit totalement, mais sans faire de victime.
Ouais, parce que la zone est quand même protégée.
Oui, ouais, c'est ça. Oui,
ouais. Ouais, c'est ça, tandis que là, il y a vraiment eu beaucoup de victimes.
Alors, pour nous situer un peu, en 1917, Halifax est alors avec Sydney, en Nouvelle-Écosse, le principal port canadien pour l'acheminement de troupes et de matériel vers l'Europe en guerre.
Mm-hmm.
Et ça a été la même chose pour la Deuxième Guerre mondiale aussi. La population de Halifax et de Dartmouth, qui est la ville juste en face d'Halifax, est d'environ de 65 000 personnes. Le 6 décembre 1917, à 8h45, le navire de transport français Mont-Blanc, un cargo d'un tonnage de 3100 tonnes et de 98 mètres de long, appartenant à la Compagnie Générale Transatlantique, et le navire de secours norvégien IMO entrèrent en collision dans les détroits du port d'Halifax. Le Mont-Blanc, en provenance de New York, où il avait chargé des munitions, arrivait à Halifax afin de joindre un convoi pour traverser l'Atlantique, parce qu'on regroupait les bateaux pour qu'ils pouvaient ainsi se défendre plus facilement des sous-marins allemands. Pardon. Il attendait d'être admis au port le 5 décembre, car il était arrivé trop tard. Le port était protégé par des filets qui empêchaient les sous-marins allemands d'entrer, ainsi que les autres navires. Au même moment, le IMO attendait de pouvoir sortir du port. Le 6 décembre, le IMO tenta de sortir par le canal droit, mais un autre navire bloquait le passage. Il s'engagea donc dans le canal gauche. Le Mont-Blanc était à ce moment en train d'entrer par le canal droit et aucun des deux navires n'accepta de céder le passage.
Juste à cause de ça.
Mais oui.
C'est finalement, un jeu de pas game. Là,
mais
de,
ouais.
Incroyable. Tu vas reculer, ouais. Non, c'est tout.
Mais ouais. Finalement, le Mont-Blanc décida de passer à côté du IMO par le centre. Le IMO stoppa alors complètement ses machines, mais cette action sur les propulseurs poussa le navire au centre et les deux navires entrèrent en collision. Le IMO tenta alors de faire marche arrière, ce qui créa des étincelles qui mirent le Mont-Blanc en feu. Les vapeurs du benzène, qui étaient entreposées sur le pont du Mont-Blanc, s'étaient répandues sur le côté du navire et elles furent enflammées par les étincelles provoquées par la collision. Le Mont-Blanc transportait de grandes quantités de munitions pour l'Europe, Isabelle, pour vous répondre à votre question, qui était plongée dans la Première Guerre mondiale. Sa cale contenait plus de 2400 tonnes d'explosifs, incluant du TNT, du fulmicoton et de l'acide picrique. Le feu, en se propageant, empêcha l'équipage d'accéder à l'équipement de lutte contre l'incendie et les marins abandonnèrent rapidement le navire sur les ordres du capitaine. L'équipage s'enfuit dans deux canots de sauvetage, rejoignant la rive de Dartmouth, tandis que le navire en feu continuait de dériver vers le rivage d'Halifax. Il continuait à faire son chemin.
Ben oui.
Pendant qu'il brûlait, d'autres navires tentèrent de lui venir en aide et des spectateurs s'assemblèrent sur le rivage. Par la suite, le vaisseau en feu frappa la jetée et le feu se propagea à terre. À 9h04min35s, précisément, le contenu du Mont-Blanc explosa. Le navire fut instantanément pulvérisé, la plus grande partie étant vaporisée en une gigantesque boule de feu qui s'éleva à plus de 6,1 km dans les airs, formant l'un des premiers nuages champignons faits par l'homme.
Avant
la bombe nucléaire.
Et donc, le bateau qui a explosé, c'est le Mont-Blanc.
Ouais,
en premier, qui a explosé en premier. Mm-hmm. Là, il n'y avait plus personne dessus ou...
Non, il n'y avait personne dessus.
Eux aussi, les équipages des deux bateaux étaient...
Oui, ben, le IMO, on va en parler plus loin.
Excusez-moi, là, je voulais juste être certaine que je suivais bien.
La puissance de la détonation déclencha un raz-de-marée qui s'éleva à plus de 18 mètres au-dessus du niveau des hautes eaux. Le raz-de-marée emporta le IMO jusqu'au rivage.
OK.
Plus de 2,5 km² de la ville de Halifax furent rasés.
2,5 km.
C'est énorme. Oui, c'est énorme.
C'est vraiment énorme,
Et d'ailleurs, j'ai visité, la petite parenthèse, j'ai visité Halifax, le musée. Il y a un musée de maritime. Mm-hmm. Il y a un étage consacré au naufrage du Titanic et l'autre étage est consacré à la tragédie
explosion.
De 1917.
Ah, oui.
Ouais, d'ailleurs, le Titanic, il y a beaucoup de corps qui ont été ramenés du naufrage du Titanic et ils sont enterrés à Halifax.
Ah oui. Ouais.
Approximativement 2000 personnes sont mortes dans le désastre, dont environ 1600 sur le coup. Sur le champ.
Ah oui, donc il y en a même qui ne sont pas morts sur le coup,
non.
Ça doit être encore pire,
oui.
Presque. Et, ça doit être une mort atroce.
Et 9000 blessés,
wow.
Dont 6000 gravement. Selon une estimation minimale, environ 35 millions de dollars, en dollars canadiens en 1917, évidemment, de dommages ont été occasionnés. Aujourd'hui,
oui.
on serait dans les milliards.
Dans les milliards, oui.
Quelques 160 hectares d'aires urbaines furent détruits, laissant 6 000 sans-abri en
et
plein hiver.
Et espérons que l'hôpital n'a pas été détruit dans, là-dedans,
ouais.
Parce qu'il y avait beaucoup de blessés.
Mais ils ont eu beaucoup d'aide, comme on va le voir plus tard.
Parce
ouais.
qu'ils ne devaient pas fournir, ouais. De toute façon.
Non, il n'y aurait pas eu de place.
Un recensement des victimes montrait que parmi les personnes tuées, 600 avaient moins de 15 ans, 166 étaient des travailleurs manuels, 134 des soldats et ou marins, 125 des artisans et 39 étaient des travailleurs de chemin de fer. Beaucoup de blessures furent handicapantes à vie, bien des gens étant rendus partiellement aveugles par les éclats de verre.
Oui.
Le très grand nombre de blessures oculaires entraîna de grands efforts de la part des médecins, à l'origine de grands progrès accomplis dans le traitement des yeux endommagés. Les suites et les séquelles, évidemment, qui ont été nombreuses. Le lendemain, un blizzard frappa la ville, faisant obstacle au secours. En plus, ça va bien. Hein? Ouais. De l'aide immédiate arriva rapidement du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve. Dans la semaine qui suivit, de l'assistance arriva de partout en Amérique du Nord et des dons parvinrent de partout dans le monde. L'effort le plus célèbre et le plus complet vint de la Croix-Rouge de Boston et du Comité de sécurité publique du Massachusetts. Depuis ce jour, les citoyens de Halifax font don d'un grand sapin de Noël chaque année à la ville de Boston.
Ah oui, en remerciement.
Oui, ben oui,
c'est vrai
c'est
que
beau,
c'est touchant,
hein?
Vous m'avez donné la charge de poule.
Cette amitié explique aussi pourquoi bon nombre de néo-écossais sont encore aujourd'hui fans des équipes sportives bostoniennes comme les Bruins et les Red Sox.
C'est un genre de reconnaissance.
Ouais.
C'est une bonne raison, ouais. Je trouve.
Une bonne partie du folklore local contemporain s'inspire de cet événement. Une histoire concerne une fenêtre du côté de à l'abri du vent dans l'église Saint-Paul sur Parade Square. Le trou fait par l'explosion dans la vitre ressemble au buste d'un moine et un morceau des débris provenant du désastre est encore incrusté dans le mur du vestibule au-dessus de l'entrée du sanctuaire. Un des héros les plus célèbres de l'événement fut Vince Coleman. Il prit le risque de retourner à son bureau du télégraphe pour envoyer un message à un train de passagers qui se rendait à la station de North Street pour les alerter du danger imminent. Il fut tué dans la déflagration, mais les trains reçurent son avertissement et s'arrêtèrent à l'orée de la ville de Rockingham. Ils échappèrent aux dommages de l'explosion et relayèrent le message pour appeler à l'aide. Après l'explosion d'Halifax, l'explosion minière de Nanaimo en Colombie-Britannique en 1887 avait été la plus grande explosion artificielle au monde. Elle avait tué 150 mineurs.
Alors on a un palmarès au Canada,
ben oui,
d'un océan
quand même.
À l'autre.
Et près d'un siècle après la catastrophe, on trouve encore au fond du port de la cordite. Très peu soluble dans l'eau et des munitions non explosées qui polluent le milieu avec les oxydes de suivre, colorants, les douilles en bleu. Les munitions contenaient par ailleurs du mercure sous forme de fulminate de mercure et du plomb qui risquent un jour de contaminer l'environnement marin, la faune et la flore du port et des environs.
Un jour, mais
est-ce que j'ai parlé de l'encre qui avait été retrouvée?
Non.
L'encre,
ah, c'est ça.
Non.
On a retrouvé une encre de l'autre côté parce que vous avez Dartmouth, il y a Halifax, puis il y a l'autre côté d'Halifax.
Ouais.
Et il y a une encre qui a été projetée complètement de l'autre côté d'Halifax. Et il y a un petit parc et je suis allé le visiter. Et on voit l'encre, un bout d'encre, là. Puis c'est vraiment, ça pèse une tonne.
Ouais, ben oui.
Et ça a été projeté là. Ils l'ont laissé
ils
là,
l'ont
les
laissé
gens,
là où elle
dans
a été...
le parc, oui, en souvenir de ça. C'est vraiment impressionnant.
Et est-ce que vous avez vu le... Vous parliez d'un presbytère ou d'un monastère?
Non, je ne l'ai pas vu.
Non, ça, on ne peut pas. Est-ce qu'on
non,
peut le visiter, savez-vous?
J'imagine, c'est une...
Avec les débris
c'est
encore incrustés dans le mur.
Oui,
là,
mais ça doit... Oui, parce que c'est encore là. On dit que c'est encore là. Ça doit être assez...
C'est impressionnant.
Oui.
Ben, merci beaucoup. Alors, vous nous avez amené du meilleur au pire, hein, de la patate aux explosions.
Mais l'explosion d'Halifax, moi, j'ai entendu parler de ça la première fois il y a quelques années seulement.
Mais j'en avais jamais entendu parler.
Oui,
c'est ça.
Moi
aussi, c'est comme vous. Merci beaucoup. Merci à Jean-Sébastien, La Liberté, la mise en onde et les choix musicaux. Merci Daniel Lachance,
bienvenue.
Serge Bradet et moi-même Isabelle Falardeau. Je vous souhaite une bonne journée.
Bye.